Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour à vous et bienvenue. Prince, Elvis Presley, Michael Jackson. Oui, ces trois stars ont un lien avec notre sujet du jour. C'est une dépendance médicamenteuse qui a précipité leur disparition. Ils se nomment Tramadol, Oxycodone ou Fentanyl, entre autres. Surconsommés, détournés, ces médicaments dérivés de l'opium participent ces dernières années à l'augmentation, voire l'explosion des conduites addictives. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous en parlons. Plus largement, nous parlons de toxicomanie, à savoir la consommation chronique, abusive et irrépressible de substances toxiques. État des lieux, quelques chiffres. Dans le monde, 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à l'usage de drogue. En Europe, plus de 290 000 personnes décèdent chaque année de causes imputables à l'alcool. Aux États-Unis, 70 000 décès par an sont liés aux opiacés et d'après les projections des experts, en 2050, l'Afrique sera le deuxième plus gros consommateur de drogue au monde. Qu'en pensent nos invités ? On en parle. Nous recevons le professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en région parisienne. Bonjour professeur.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous accueillerons le docteur Ibrahim Ndiaye, psychiatre addictologue au CEPIAD, le centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar, au Sénégal. Professeur Benyamina.
Priorité santé sur RFI.
Il est vrai que j'ai hâte de débuter cet entretien. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais parler de l'un de vos mentors, d'une personne très importante pour vous, mais aussi pour le monde de l'addictologie, quelqu'un qui nous a quittés.
Oui, je vous remercie de me permettre de lui rendre hommage. C'est le professeur Michel Reynaud, qui donc a été mon chef de service, mon ami, mon mentor. Mais évidemment, ça intéresse très peu de personnes. Ce qui est important, c'est celui qui a construit la discipline addictologique en France. Il avait une aura importante, elle était évidemment nationale et internationale. Et pour la petite histoire, il avait débuté ses études de médecine en Afrique. Et donc, il avait un lien très affectif, très important, et les Africains lui rendaient bien. Donc, c'est une grande disparition, une perte pour la discipline, une perte parce que c'était une personne sur le plan personnel, humaine, d'une grande qualité. Et je vous remercie ici dans cette radio, symbolique, à ses yeux, de me permettre de lui rendre cet hommage. Et il a été, je pense, très souvent invité chez vous.
Avec un grand plaisir, et on l'a bien compris, la relève est d'ores et déjà assurée avec vous et avec beaucoup d'autres qu'il a pu accompagner.
Complètement. Donc, Michel Reynaud avait créé la discipline et depuis, on est une vingtaine de professeurs d'addictologie en venant de disciplines différentes. Et puis là, on essaye de donner un sens à ce combat.
À son travail. Voilà, on va parler de ce combat. Comment qualifieriez-vous la nature du combat que le monde est en train de mener contre les drogues? Leur consommation est à la hausse à l'échelle mondiale, plus 30%. Entre 2009 et 2018.
Vous avez, en début d'émission, annoncé des chiffres effrayants, mais c'est la stricte
vertigineuse
réalité. On a évidemment maintenant des mouvements particuliers. Dans les années 70, la drogue, c'était l'héroïne, c'était les films des auteurs réalistes américains qui montraient des gens qui mouraient d'overdose dans des quartiers malfamés, laissés pour compte dans le monde. Eh ben, la drogue a changé actuellement. Ce qui tue, vous l'avez dit, et ça, on en parlera en émission, ce sont des drogues sous blister. Ce sont des médicaments. Et puis, on voit l'évolution des sociétés, le cynisme parfois, de certaines compagnies pharmaceutiques. On voit aussi le travail épuisant, mais efficace, hélas, de certains lobbies, notamment l'alcool. On voit le travail épuisant, mais qui actuellement est plus ou moins contrôlé, celui du tabac. Et donc c'est un phénomène qui est hélas réel. Et ce qui est terrible, c'est que sur l'échelle d'une vie, les phénomènes qui sont jugulés dans le nord, ils arrivent dans le sud.
Ils se déplacent.
Ils se déplacent et on voit que l'Afrique sera le prochain terrain d'impact. On a vu comment l'industrie du tabac s'est refait une santé, entre guillemets, sur le dos des Africains, en vendant, en bradant, en faisant des campagnes de promotion sur le tabac. J'étais venu ici à Priorité Santé pour parler de la présence des alcooliers et des débiteurs de bière en Afrique. Et on verra, hélas, c'est un mouvement qui est inexorable, l'arrivée des opiacés sous blister aussi en Afrique.
En cette journée nationale des toxicomanies, quel est le message le plus fort que vous aimeriez faire passer d'emblée à nos auditeurs ?
Je pense que il faut être vigilant, il faut ouvrir les yeux et les oreilles sur les messages de prévention et de, entre guillemets, de modération. Mais bon, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça.
Sont-ils suffisamment efficaces, ces messages? Sont-ils entendus?
Oui, alors c'est un message auprès des Africains, mais aussi auprès des responsables politiques. Attention, on ne peut pas accepter n'importe quoi sous couvert de la réelle politique économique. On ne peut pas, parce que ce que l'on touche d'un côté avec des fonds très importants des opérateurs économiques et qui commercent ces addictions, on le perd sur le manque à gagner des personnes qui sont malades, sur la prise en charge, sur le soin et sur le plan humain. Donc il faut vraiment faire attention. Et l'Afrique doit se prémunir. Elle sera, elle est déjà le terrain où on se dispute la part du gâteau. Donc c'est ce que je dis aux Africains.
On va en parler, on aura l'occasion d'en parler. Hier soir, le président Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu qui s'adresse à environ 20 millions de Français. Des conséquences sont-elles à redouter chez les usagers de drogue ?
Oui, alors je pense qu'il faut faire attention parce que assez souvent, les consommations se font de nuit. Pour des raisons d'habitude et aussi parce qu'on a ce qu'on appelle discrétion. Il y a les angoisses vespérales, les habitudes, tout ça. On risque d'avoir des personnes qui vont faire des stocks parce que entre 21h et 6h du matin, elles ne pourront pas aller se fournir auprès des dealers ou bien auprès des débiteurs. Donc attention, on a eu l'occasion de parler au cours du confinement de l'explosion des phénomènes de consommation et des problématiques psychiatriques et psychologiques liées à ce confinement. Il faut se prémunir, il faut faire attention à ne pas se surexposer aux consommations. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein, évidemment.
Il y a quelques jours, pour rester dans l'actualité, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est dite favorable à l'ouverture de davantage de salles de shoot, entre guillemets. Elle préfère d'ailleurs le terme salle de consommation à moindre risque. Qu'en pensez-vous? Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les salles de shoot, comment elles fonctionnent et peuvent-elles être une passerelle vers, pourquoi pas, une prise en charge?
C'est les salles de consommation à moindre risque, et je remercie Anne Hidalgo de corriger. Je pense que c'est extrêmement important. Les salles de consommation à moindre risque à Paris, il y en a une, elle est dans le 18e, et pour les riverains, elle pose problème parce qu'il y a une hyper-concentration est finalement laissé pour compte. Ce sont des populations, elles sont pas nombreuses, mais elles sont suffisamment atteintes pour qu'on puisse leur porter secours, parce que le problème de ce genre de profil de consommateurs, c'est que ils ne peuvent estimer leur consommation qu'à travers l'utilisation de la seringue ou avec des prises de risque importantes. Donc l'idée, ils ne sont pas dans le circuit du soin, c'est de leur donner un espace dans lequel ils peuvent finalement s'injecter leur drogue dans des conditions de propreté et de dignité, et leur amener un certain nombre d'encadrements à la fois médical et social et sanitaire qui leur permettent de reprendre un peu conscience d'eux-mêmes et peut-être, comme vous le dites, être un sas vers une prise en charge, vers un soin. D'abord, ils le feront pas au vu au sud de tout le monde. Ils éviteront de disséminer finalement aussi leurs produits et puis les seringues. Et c'est aussi une occasion pour pouvoir rentrer dans le circuit du soin. Et je pense que le fait d'ouvrir d'autres salles déconcentrera aussi le phénomène d'abcédation qui s'est opéré au niveau du 18e arrondissement.
Oui, le nord-est de Paris
À la gare du Nord.
Qui peine à régler ces problèmes d'ailleurs entre les riverains et les usagers de drogue.
Les salles de consommation à moindre risque, ça paraît être une innovation parisienne ou française. Il y en a partout en Europe, en Suisse on en a beaucoup, au Canada, et ça ne pose pas le problème à la fois idéologique et de proximité comme ça l'est ici en France, à Paris pour être tout à fait précis.
Il y a un autre sujet qui agite les débats, c'est le cannabis. L'expérimentation de l'usage thérapeutique du cannabis en France vient d'être autorisée dans un cadre très contrôlé, vraiment destiné uniquement aux patients souffrant de maladies graves. Le psychiatre addictologue que vous êtes le voit-il d'un bon œil pour la prise en charge de ces patients ou a-t-il quelques réticences?
Oh, je n'ai aucune réticence. J'ai été évidemment interrogé et même militant pour la question du cannabis thérapeutique qui n'a rien à voir avec le cannabis festif, au sens où c'est un produit qui est passé par le crible de ce qu'on peut voir pour la mise sur le marché d'un médicament. Pour autant, la question du cannabis est la même. C'est-à-dire, on a affaire à des fantasmes projetés sur une population qui méconnaît la réalité de cette molécule, le cannabis, hein, le THC en général.
Peut-être pouvez-vous nous éclairer.
J'en dirai un mot, évidemment. Et pour ma part, vous m'avez présenté comme psychiatre addictologue. Je rassure ma faim parce que les 5 indications pour lesquelles l'expérimentation va se mettre en place a écarté les indications psychiatriques, addictologiques, et je regrette. J'espère qu'on pourrait les élargir à ce niveau. Pour ce qui est du cannabis en général, moi j'ai toujours milité, je continue, je dis que c'est un spectre qui va du thérapeutique ou du médical vers le festif, et ce spectre doit être encadré sur le plan légal et sortir de la prohibition. Parce que interdire le cannabis également sur le plan festif, c'est offrir en quelque sorte notre jeunesse et les personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant de maladies psychiatriques, on les offre aux trafiquants. Et on voit bien que dans les pays où le sujet n'est pas polémique et n'est pas idéologique, partout dans le monde, en gros, finalement, on est passé par la partie cannabis médical thérapeutique est actuellement en légifère sur le festif avec un encadrement pour pouvoir connaître le produit consommé et avoir un œil sur les personnes vulnérables. Ce n'est pas le cas en France.
Parlons du cannabis festif. Le défaut d'approvisionnement du cannabis durant le confinement a favorisé la culture du cannabis à domicile ces derniers mois. On le plante à la maison. Est-ce qu'il y a un risque dans cette pratique? A-t-on les moyens de contrôler? Est-ce qu'il faut le contrôler?
L'autoculture, ça fait très longtemps.
Il y a eu un boom,
oui,
là.
Il y a eu un boom de l'autoculture. Comment contrôler? Non, tout simplement parce que on voit bien la limite de la loi de 70. Hein, on parle de celle-là qui évidemment classe le cannabis comme étant un stupéfiant interdit. On va fêter le 31 décembre 2020 les 1970, donc ça fait les 50 ans.
50 ans, ouais.
Donc ça fait, il y a 50 ans, c'était pas le même produit, c'était pas la même société, c'était pas la même jeunesse, et c'était pas le même niveau de connaissance scientifique. On est à contre-courant de l'histoire.
Mais on a quand même le sentiment que la digue est proche de la rupture. On sent que.
Écoutez, sur le plan de la connaissance, on est capable d'aligner des réalités maintenant. Il y a des consensus qui se dégagent. On connaît la nocivité. Et on sait quelles sont les populations qui sont vulnérables. Et on a un débat qui maintenant traverse toutes les familles politiques. Je vous renvoie à une tribune qui a été signée par un jeune parlementaire, Robin Reda, Les Républicains, alors que historiquement la droite était contre, et qui exhorte ses troupes à réfléchir sur et à pousser pour légaliser le cannabis, ce qui était impensé et impensable il y a quelques années. Donc oui, il faut que la France sorte finalement de son carcan idéologique concernant ce produit.
Avant de poursuivre, je souhaiterais vous faire réagir à ce témoignage, celui de Saliou. Il est au Bénin et il partage avec nous son expérience avec les antidouleurs.
Bonjour Céline, bonjour à votre invité. Moi c'est Saliou Mama. Je vous appelle de Boycon au Bénin. J'ai 48 ans. Je souffre de l'insuffisance rénale chronique depuis 2006. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Et j'ai des douleurs atroces aux articulations, douleur que je soulage avec le Zamidol, et le principe actif c'est du Tramadol, un dérivé de l'opium. Et j'aimerais savoir si ça va affecter ma santé à la longue, parce que vraiment sans le Zamidol, je ne peux rien faire sincèrement. Merci.
Je vais répondre à Saliou. Alors Saliou, c'est le cas typique pour lequel le Tramadol doit être prescrit par un médecin, c'est le cas de Saliou, et il doit être régulièrement réévalué. Donc vous avez cité en début d'émission le problème des médicaments. Allez, la première mission d'un médicament, c'est de soulager, de soigner et même de guérir. Et donc ces médicaments dont on a parlé tout à l'heure ont été détournés de leur usage. D'abord détournés de leur mission au départ pour les grands, le fentanyl, l'oxycodone, qui étaient au départ des produits réservés à une population précise, à usage intra-hospitalier, dans des indications de douleurs particulières, notamment cancéreuses. Et par le jeu finalement du lobby, ces médicaments se sont retrouvés dans les officines, dans les boîtes, dans les pharmacies des maisons, ce qui n'était pas leur mission au départ. ça lui ou qu'il se désangoisse. Évidemment, il est suivi, ses douleurs sont redoutables, elles sont gérées par le tramadol, il ne risque rien. En revanche, le jour où il arrêtera, il sera accompagné pour pouvoir l'aider à éviter les signes de manque. Il ne mésuse pas, donc il est vraiment dans l'indication.
Vous dites que son traitement doit être réévalué, mais à quel rythme ?
Bon, ben, il est suivi pour sa problématique. À quel rythme ? Au rythme, tous les mois, il voit son médecin qui le renouvelle, peut-être tous les 15 jours. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que la douleur n'est pas gérée que par des médicaments. On peut les gérer par des pratiques différentes. Le sport, la méditation, la relaxation, ce qu'on appelle toutes les techniques non médicamenteuses. On peut mixer les deux. Tout ça est possible. Hein. Le plus dur, c'est l'automédication, c'est-à-dire décider de se soigner ou bien de se gérer et se retrouver coincé et piégé par l'addiction. Aux médicaments.
Nous sommes là en train de traverser une crise sanitaire qui est rythmée par les confinements, la distanciation sociale, il y a un climat très anxiogène, la peur du lendemain, tout ce qu'on connaît. Au quotidien, dans votre métier, constatez-vous des effets de cette crise sanitaire sur les comportements addictifs ?
Évidemment. Alors, on l'a vu, on a même sorti des articles au cours du confinement et dites la première vague. On a plusieurs types de profils. Les premiers, ce sont des patients qui étaient suivis, qui étaient en rupture de suivi en présentiel et qui ont disparu de la consultation, malgré les sollicitations à distance, qui ont rechuté. Rechuté parce qu'ils n'étaient pas suivis. Rechuté aussi parce qu'ils étaient anxieux, parce qu'on a souvent des comorbidités addictives et anxieuses, et qui ont rechuté parce que, en même temps, ils avaient la disponibilité, finalement, du produit. Et puis, on a ceux qui ne peuvent pas venir nous voir et qui, clairement, se retrouvent à consommer et à ne pas pouvoir débuter leur consommation parce que le confinement est pénible et qu'ils ont trouvé un faux ami qui est le produit. Donc cela, oui. Et on a vu quand même une augmentation du nombre de personnes qui s'adonnent à ce type de pratique et de comportement.
Je voulais juste souligner ce mot que vous avez utilisé, le faux ami.
Oui.
Je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse l'entendre. Qu'est-ce qui pousse ou décide des usagers de drogue à venir vous consulter ? Est-ce qu'il y a des événements déterminants ou des personnes, des proches qui jouent un rôle important dans cette démarche d'engagement de soins ?
Alors le problème de l'addiction, c'est que la plupart des personnes qui sont dans un stade avancé font preuve de déni, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à voir le degré de leur dépendance et le degré de leur perte de liberté. Ils ont conscience qu'ils sont alcooliques ou toxicomanes, mais ils ont toujours quelque part caché dans leur esprit la possibilité de dire je m'arrête quand je veux, je maîtrise, ce qui est complètement faux. Alors la démarche de soins, elle est rarement personnelle, hélas, elle est soit le fait d'une rupture professionnelle, familiale, sentimentale ou sanitaire, c'est-à-dire je me retrouve à un moment donné, j'ai un problème au niveau du foie, j'ai un problème au niveau du cœur, ou alors j'ai un problème, une alerte sociale, c'est-à-dire je fais un accident, j'ai été interpellé par la police, voilà, c'est ça. Et tout l'enjeu d'un médecin ou bien d'un soignant, pas qu'un médecin évidemment, d'un accueillant sanitaire, c'est de transformer finalement une contrainte vers une motivation de changement du comportement. C'est-à-dire quelqu'un qu'on oblige et qui se retrouve obligé à venir nous voir, notre travail, c'est de faire de telle sorte qu'il redevienne, finalement, il devienne l'acteur principal de son changement. Ça, c'est là le grand enjeu pour lutter contre le déni qui est permanent dans ce type de pathologie.
Est-ce que la honte, la peur du regard de l'autre, même quand il s'agit d'un professionnel de santé, peut être un frein?
C'est un frein.
Pour se lancer dans cette démarche de soins.
C'est un frein, c'est la raison pour laquelle on déstigmatise un peu la problématique addictive. On a un exemple classique de cette honte, ce sont les femmes alcooliques, entre guillemets. Elles viennent souvent à un niveau de consommation très élevé, avec des ruptures conjugales, des rejets familiaux. Et donc, tout l'enjeu, c'est de déculpabiliser, de déstigmatiser et de permettre aux personnes de venir nous voir. Alors, si on ne le fait pas suffisamment, votre canal nous permet de le faire. Mais évidemment, oui, on a aussi parfois des personnes qui ont des comorbidités médicales. Elles ont un problème de santé, elles consomment des drogues ou elles ont un problème de dépression. Elles choisissent la pathologie pour venir nous voir. Je suis déprimé, j'ai un problème au niveau du foie, j'ai mal au mollet. Mais évidemment, ce qui est derrière et qui est gros comme une maison, comme on dirait, c'est la problématique addictive.
Nous allons maintenant retrouver l'une de nos auditrices, Christelle Anjamena, au Tchad. Bonjour Christelle, bienvenue.
Bonjour Maëlle, bonjour docteur. Moi c'est Christelle, je vous appelle de Ndjamena.
Christelle,
c'est concernant mon papa.
C'est ça, oui, j'allais simplement introduire justement votre sujet. J'allais simplement dire que vous voulez nous parler de votre père qui, lui, s'automédique.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous en dire
mon
plus?
Mon père s'automédique depuis 15 ans et c'est suite à un problème de mal de dos qu'il a ressenti. Mmh. Et pour ça, il prend des diclones et il se fait injecter également par des produits vétérinaires tels que le phénylarthrite. Et ces 4 dernières années, on a eu à diagnostiquer également la goutte. Alors je m'inquiète pour lui. Quelles seraient les conséquences sur sa santé, que ce soit physique ou psychologique?
Vous cherchez une façon de l'aider, finalement.
Oui, c'est ça.
Professeur Benyamin.
C'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Christelle a tout à fait raison de s'inquiéter pour son père. Il est important qu'il aille voir un professionnel d'abord pour la problématique de santé qui l'a amené à s'automédiquer, qu'il arrête d'acheter ses médicaments, entre guillemets, à la sauvette auprès des revendeurs qui, très clairement, sont des vrais dealers. Hein. Et qu'il aille voir aussi en même temps, parce que je crois qu'il aura besoin de voir quelqu'un, un soignant spécialisé dans les addictions. Parce que là, à ce niveau de la consommation avec ses années, il est probablement dépendant. Donc voilà, il faut, ce qu'il faut faire, évidemment, vous avez raison de vous inquiéter, Christelle, mais il faut aller réellement, réellement l'aider à consulter. Je veux dire, là, c'est une urgence
vous,
presque.
Vous avez vous-même fait allusion au déni.
Oui.
Comment amener quelqu'un à consulter quand ce déni est tellement fort, parfois.
Il faut tirer un fil de, pour que la pelote vienne dire, voilà, tu as, par exemple, hein, je sais pas moi, tu as beau prendre des médicaments, même si c'est pas prescrit, ça ne soulage pas ta douleur, tu vois que si tu ne les as pas, voilà ce qui t'arrive. Essayer d'avoir des éléments comme ça pour déclencher une première consultation, même si la personne n'est pas totalement convaincue.
Christelle, vous avez pris bonne note de ces conseils?
Oui.
Donc,
oui.
Véritablement, engager la discussion et inciter-le à consulter au moins une première consultation qui pourra, très certainement, on l'espère, engager la suite de cette démarche et des soins.
Tout à fait.
On vous souhaite bon courage. Merci, Christelle.
Merci beaucoup.
Peut-on sortir, oui, ou peut-on se sortir d'une addictologie? On a envie d'entendre des choses positives.
Ah bah oui, mais sinon je ne serais pas là.
On vous écoute.
Évidemment, on est là pour aider les personnes. On en sort tous les ans, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, beaucoup. C'est un travail d'équipe, c'est un travail difficile, mais on a des résultats. On soigne les personnes, on guérit des personnes, on permet à ces personnes de revenir à elles-mêmes. Évidemment, sinon, on est des techniciens du soin finalement. On a des techniques de soins, d'aide, d'accompagnement. C'est un travail d'équipe. On a des médecins, des assistantes sociales, des infirmiers, des psychologues, des éducateurs. On adapte notre outil de soins en fonction des âges, en fonction du sexe, en fonction du lieu. On hospitalise pour des sevrages, mais ça ne suffit pas. On accompagne avant et après les sevrages. Tout ça constitue vraiment notre savoir-faire. En revanche, on n'est pas suffisamment nombreux. Je sais qu'en Afrique, ils ne sont pas nombreux. Et donc, c'est une discipline jeune qui s'est organisée, mais qui a besoin d'être plus étoffée.
Quels sont ces signes évocateurs d'une addictologie? Comment le consommateur sait-il qu'il bascule dans la dépendance? Que là, un problème s'installe véritablement?
C'est la définition même d'addiction, c'est le fait de consommer, de ne pas pouvoir s'abstenir. Et d'avoir besoin, à un rythme précis, de consommer son produit. Et qu'à l'arrêt, on a des signes de manque, et ensuite, on a des dégâts qui interviennent sur sa vie, sur son corps, sur sa tête. C'est ça, l'addiction.
On va maintenant retrouver Jeanne, au Cameroun, à Douala. Et Jeanne a un message plutôt positif à faire passer. Bonjour, Jeanne.
Bonjour.
Bienvenue dans Priorité Santé. Vous avez 53 ans, vous avez de l'arthrose, vous avez durant un temps consommé, utilisé des médicaments, des antidouleurs presque quotidiennement. Et aujourd'hui, vous vous en passez.
Oui.
Expliquez-nous.
Oui, je m'en passe parce que j'ai tellement pris et la douleur, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Et ça, au lieu de me soulager, les antidouleurs ont commencé à me donner des maux d'estomac graves. J'ai vu des gastro, j'ai vu. Bon, j'ai dit, bon, je n'hésitais pas. J'étais désespérée. Après, j'ai commencé à écouter mon corps. J'ai constaté que chaque fois que je prends, par exemple, un verre d'alcool, les douleurs s'intensifient. Quand je mange du sucre, s'intensifie. J'ai dit, bon, si c'est ça qui me donne des douleurs, pourquoi ne pas laisser? Et depuis que je m'abstiens à tout ce qui me dérange, je vais mieux. Je vais mieux.
Vous venez de dire qu'il faut apprendre à écouter son corps. On a l'impression que c'est une formule toute faite, qu'on a beaucoup entendue, mais finalement ça fonctionne, docteur Benyamina.
Évidemment, bien sûr, c'est important. C'est un travail important. C'est un travail de, finalement, de prise de conscience de ce qui fait du bien pour le corps. On s'écoute, et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, on peut s'écouter avant de rentrer au stade de dépendance. C'est ce qu'a fait Jeanne. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête à ce moment-là. Il y a même des stratégies thérapeutiques qui sont inspirées de la conscience de soi, ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est-à-dire s'écouter, mais c'est une technique d'apprentissage, et avancer en évitant tous les scories et tous les parasitages autour de soi.
Toutes les réponses ne sont pas médicamenteuses.
Sûrement pas.
Voilà, Jeanne.
Oui.
Merci beaucoup. C'est positif, on a envie de l'entendre et je pense que ça peut parler à beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup, Jeanne. On l'a évoqué, professeur Benyamina, l'addiction aux opiacés progresse dans le monde et en France. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un opiacé, qu'on comprenne?
Alors un opiacé, c'est un médicament avec au cœur de sa molécule un dérivé opiacé, c'est un dérivé de l'opium comme son nom l'indique, ou de la codéine. Alors ce sont des médicaments qui ont révolutionné la médecine. C'est grâce à ces opiacés qu'on a pu, en gros, gérer les grandes douleurs, faire des interventions sans faire mal. Ils sont importants et pour l'anesthésie. C'est une famille de médicaments extrêmement importants. Ensuite, on a évidemment de fil en aiguille fabriqué des médicaments à partir de ces dérivés, avec une puissance qui va du niveau 1 à niveau 1000. Donc c'est pas les opiacés qui sont difficiles. Le problème c'est pas les opiacés, c'est les indications, c'est la manière avec laquelle on les a fait sortir de leur cadre précis, qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché et le mésusage. Mais c'est une famille de médicaments qui est extrêmement importante et un outil de soin
dont la médecine a besoin,
dont on ne peut pas se passer
dans le cadre de la lutte antidouleur.
Mais tout à fait.
N'assiste-t-on pas à une sorte de banalisation chez les usagers, hein, de la consommation de ces substances?
Il y a une banalisation.
À l'instar de l'alcool et du tabac, j'allais dire.
Il y a une banalisation. Il y a aussi une proposition marketing de certains médicaments dans lesquels on ne sait même pas qu'on prend des opiacés. Tramadol, il n'y a pas marqué opiacé dedans. Codoliprane, il n'y a pas marqué opiacé. Alors que beaucoup de personnes prennent du codoliprane, elles ont mal à la dent, elles ont mal à la tête. Alors qu'il y a de la codéine. La codéine, c'est aussi des opiacés. Tout ceci constitue finalement une proposition de médicaments. Ils ne sont pas dangereux, mais pour lesquels il faut une vigilance que le grand public ne connaît pas ou ne connaissait pas.
Vous avez parlé de la codéine et du codoliprane, oui, par exemple, pour le citer. Il y a eu un temps avant cet encadrement durant lequel les patients ou les acheteurs, les consommateurs pouvaient aller s'en procurer en pharmacie, oui, faire une autre pharmacie, acheter d'autres boîtes et ainsi de suite et finir la journée avec une dizaine de boîtes. Donc on peut tout de même se réjouir qu'aujourd'hui, au moins en France, c'est pas le cas partout, la réglementation, l'encadrement soit plus efficace là-dessus.
Ben, l'encadrement a évolué à l'été 2017 suite au décès d'une...
Il y a eu une affaire.
Une affaire, l'affaire Amandine, une jeune fille de 14 ans qui est décédée. Oui. Sa maman a fait un change.org.
Témoignage très fort de sa mère.
Voilà, ça a interpellé un peu les pouvoirs publics. À l'époque, la ministre de l'époque, Agnès Buzyn, avait réglementé. Et on se demande maintenant comment était-il possible de ne pas l'avoir fait.
Avant. Pourquoi prescrit-on des substances au potentiel addictif? J'ai une partie de la réponse, mais peut-être pas toute la réponse, dont certaines ont même un pouvoir addictif supérieur à l'héroïne, à des patients. N'y a-t-il pas d'autres alternatives?
Alors, les grandes douleurs cancéreuses ont besoin de ce type de profil, mais elles sont prescrites par des professionnels sur un temps limité. C'est le fait de les avoir sortis de ce cadre et d'avoir en quelque sorte banalisé la prescription auprès de Monsieur Tout-le-Monde qui est à l'origine de la grande crise des overdoses aux États-Unis au Canada. Vous savez qu'il y a eu plus de morts par les opiacés au Canada aux États-Unis qu'à la guerre du Vietnam à ce jour. C'est absolument édifiant.
Plus de morts que les accidents de la route.
Complètement.
Plus...
Et... La courbe démographique des États-Unis a été érodée par la crise des overdoses. Voilà. Donc là-dessus, il faut être très vigilant. C'est finalement l'intervention lobbyiste d'une compagnie pharmaceutique aux États-Unis qui d'ailleurs
a été condamnée
à fermer la clé sous la porte. Encore heureux par un marketing très agressif auprès des médecins qui ont été achetés. Il faut appeler les choses par leur nom pour prescrire des médicaments extrêmement puissants pour des pathologies usuelles.
On appelle ces morts aux États-Unis auxquelles vous faites référence les morts de désespoir, parce que souvent liées à leurs difficultés et à la précarité. Pourrait-on aller vers ce type de situation en France et ailleurs dans le monde ?
La comparaison s'arrête là parce que quand même aux États-Unis, les personnes qui sont victimes de ce type de médicaments sont souvent des gens pauvres. Très souvent d'origine modeste sur le plan social. Une grande majorité, ce sont des Noirs américains qui n'ont pas accès, hélas, à la sécurité sociale ou bien à la...
Voilà, qui n'ont pas de mutuelle,
donc, et qui se retrouvent à avoir finalement un pansement avec pour leur douleur à la fois physique et morale en ayant recours à ce type de médicaments. Donc là-dessus, en France, évidemment, on a ce garde-fou qui nous permet évidemment de ne pas probablement avoir le même phénomène retranscrit en France. Pour autant, on a une augmentation des overdoses qui a doublé, voire triplé ces dernières années. Donc le phénomène n'est pas resté cantonné aux États-Unis.
Et peut-être qu'on n'a pas précisé une chose, c'est que concernant les opiacés, aujourd'hui en France, les opiacés représentent la première cause de mort par overdose.
Aussi, bien sûr.
Donc,
restons
vigilants.
Ce n'est pas l'héroïne, c'est fini.
Voilà, devant l'héroïne, c'est fini.
Ce n'est pas la drogue vendue au coin de la rue ou bien quelque part par les dealers, c'est ça, et qui est mésusé.
On va maintenant écouter Amy Winehouse avec Rehab. Rehab, la cure de désintoxication chantée par Amy Winehouse. Vous écoutez Priorité Santé. Nous parlons aujourd'hui d'addiction, de dépendance et nous prenons la direction de Dakar au Sénégal pour rencontrer, discuter avec le docteur Ibrahima Ndiaye qui est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue à vous dans Priorité Santé.
Bonjour.
Bonjour. Docteur Ndiaye, vous êtes psychiatre addictologue au CEPIAD, à Dakar, donc. Le trafic de cocaïne s'est largement amplifié ces dernières années à Dakar. Constatez-vous un afflux plus important de patients souffrant de cette dépendance?
Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission.
Ravi de vous accueillir.
Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Amine Benyamina pour l'immense savoir qu'il a eu à partager avec nous lors de notre formation dans son unité. Je tiens aussi à rendre hommage à notre maître, professeur Renaud, paix à son âme. Alors, par rapport aux addictions à la cocaïne, je pense que, effectivement, Dakar fait partie des zones qui peuvent être considérées comme une plaque tournante. Notamment, c'est une zone qui est carrefour et qui fait que beaucoup de produits passent par Dakar avant de remonter. Par exemple, ils quittent l'Amérique du Sud avant de remonter vers l'Europe, vers les États-Unis, etc. Alors, nous n'avons pas les données en tant que telles par rapport à la quantité de drogue qui sont saisies. Ça, c'est pas de notre ressort. Mais quand même, dans nos consultations, effectivement, nous avons beaucoup de consommateurs de cocaïne. Mais surtout de consommateurs d'héroïne. Surtout. Malheureusement, les consommateurs de cocaïne, en général, rarement sont ceux qui viennent d'eux-mêmes demander de l'aide. Parce qu'il faut comprendre notre situation. Nous, au niveau du Sénégal, c'est depuis 2015 qu'on a mis en place une unité, un service d'addictologie. Et au départ, c'était le contexte du VIH, parce qu'il y avait une étude qui avait été menée en 2011 et qui avait monté un nombre important de consommateurs d'héroïne et de cocaïne, mais surtout d'héroïne. Donc la taille totale était de 1324 consommateurs de drogue injectable. Ici, on parle de drogue injectable, on entend par consommateurs d'héroïne et de cocaïne, mais pour les 93%, c'était des consommateurs d'héroïne. Donc fort de cela, on a mis en place le CEPIAD, qui propose une prise en charge globale de la consommation, aussi bien par rapport à la dépendance, mais aussi par rapport aux comorbidités, mais aussi l'accompagnement psychologique et social.
Comment progresse...
Donc, nous...
Je vous écoute, allez-y.
Donc, on reçoit plus les consommateurs d'héroïne plutôt que les consommateurs de cocaïne. Bien sûr, on les reçoit, mais ils sont comparativement aux consommateurs d'héroïne.
Ils sont moins importants.
Beaucoup moins important.
Comment, selon vous, progresse l'addiction aux opiacés au Sénégal? La tendance est à la hausse un peu partout, notamment en Afrique de l'Ouest. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
Tout à fait. Alors, malheureusement, on n'a pas encore de chiffres, de chiffres par rapport aux... Parce que ce sont des études qu'on a menées ça et là, des études qui sont assez parcellaires, qui concernent souvent des raisons. J'ai cité tout à l'heure de l'étude Hudson, qui a été menée en 2011. Il y a aussi une étude qui a été menée à Mbour, qui est une région touristique au niveau du centre, et aussi à Kaolack. Donc, toutes ces études-là, les chiffres sont en train d'être analysés. Mais néanmoins, nous, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à ce qu'on reçoit dans nos consultations. Effectivement, il y a des consommateurs d'héroïne qui sont les plus représentatifs, mais quand même, on reçoit beaucoup de patients qui ont une addiction au tramadol. Le tramadol qui est prescrit malheureusement à tort et à travers, et surtout qui est prescrit alors que les règles de prescription ne sont pas respectées. Donc ces patients souvent nous viennent soit d'eux-mêmes, ou bien ce sont les médecins qui les suivent, qui se sont rendus compte que malheureusement ces personnes commencent à développer une addiction et qui nous les réfèrent. En général, ce sont des patients qui sont suivis pour la grande partie pour un syndrome douleur, notamment les douleurs liées à des crises vaso-occlusives de la dérapanocytose SS. Comme vous le savez, ce sont des douleurs importantes, très difficiles à gérer. En général, systématiquement, les médecins ont tendance à recourir à ces produits-là. Et malheureusement, c'est qu'on les laisse avec le médicament. Ça, pourtant, que ça soit limité dans le temps. Et souvent aussi, ces patients-là vont dans les pharmacies et peuvent se le procurer sans ordonnance. Et ça, vraiment, c'est un drame.
Justement, j'allais vous demander, que font les autorités politiques, sanitaires, pour mettre en place des mesures d'encadrement et de réglementation?
Alors, il faut connaître la phénoménologie de l'addictologie ici au Sénégal, parce qu'effectivement, on est très jeune dans le domaine. C'est depuis 2015. Donc, ça fait que 5 ans qu'on est en train de vraiment comprendre le phénomène. Et dans un premier temps, tout l'accent était mis dans la lutte contre l'héroïne. Actuellement, on est en train d'observer un phénomène de saturation par rapport à l'ensemble des consommateurs qui, pour certains, ont été contactés par notre équipe, parce qu'il faut savoir qu'on a été une équipe outreach qui va sur le terrain voir les consommateurs de drogue. Et pour d'autres aussi, ont été référés au niveau des centres de prise en charge. Actuellement, on en compte tous 3 au Sénégal. Malheureusement, pour le phénomène de l'addiction au tramadol, à la codéine, en tout cas aux autres opiacés, autres que l'héroïne, le phénomène n'est pas très bien connu. On n'a pas donc de chiffres, il n'y a pas d'étude qui a été menée dans ce sens-là. Et effectivement, c'est à nous, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est pris en charge de l'addiction au Sénégal, cette tâche-là est dévolue au CPAP. Donc, toutes les politiques de prise en charge, c'est le CPAP. Et nous, prochainement, on va s'intéresser dans l'étude de ce phénomène-là, parce que de plus en plus, on en reçoit. On reçoit des patients qui viennent pour ce problème-là. Et aussi, on a constaté aussi qu'il y a des jeunes qu'on reçoit souvent qui viennent, d'ailleurs même j'ai l'habitude de dire que la première fois où moi personnellement j'ai utilisé de la naloxone qui est un produit, qui est un antidote contre les opiacés, c'était non pas pour traiter une overdose liée à l'héroïne, mais plutôt une overdose liée à un autre opiacé, notamment la codéine, qui a été mélangée avec d'autres produits, notamment avec de l'alcool, qui est quelque chose qui est très utilisé. Les jeunes même l'appellent purple drink. C'est une boisson qu'ils utilisent lors des soirées festives et qui commence à faire beaucoup de ravages dans les milieux festifs aussi.
Je pense que ça
doit alerter les autorités. Et je pense que nous autres professionnels de la santé, on a notre rôle à jouer pour que ce phénomène-là soit bien connu, parce qu'au Sénégal, auparavant, c'était la même chose qui se passait avec l'héroïne. Pendant très longtemps, le phénomène a été méconnu, ignoré. Et il a fallu que les acteurs de la santé se réveillent, fassent des études et montrent des évidences qui prouvent la réalité de la consommation au niveau du Sénégal. Ça va être la même chose aussi qu'on va dérouler pour ce qui concerne le tramadol, la codéine, les autres opiacés.
Oui, j'allais vous dire que c'est bien le problème, c'est que en matière d'addiction, finalement, les substances se réinventent. Donc, merci de lever le voile aussi sur ces nouvelles conduites addictives. Quel message de prévention pourriez-vous faire passer, docteur Ndiaye, auprès de nos auditeurs?
La prévention, elle se trouve à plusieurs niveaux.
On vous écoute.
Donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait que les médecins qui prescrivent ces médicaments, parce que je n'ai même pas parlé des médicaments qui sont des opiacés qui sont vendus à la sauvette, à la rue. Je parle plutôt des médicaments qui sont prescrits par nos collègues et malheureusement qui ne maîtrisent pas totalement le problème, le phénomène. Donc, il faut que ces collègues-là aussi, je pense que nous autres, en tant qu'addictologues, en tant que psychiatres, on a un rôle à jouer, un rôle de sensibilisation auprès de ces collègues-là pour que cette prescription qui se fait à outrance, sans respect des règles, soit le plus en plus bannie. Et aussi, il faudrait que aussi la loi aussi encadre. Bien vrai qu'il y a des règles de... La loi préconise que la dispensation, en tout cas la délivrance du tramadol doit se faire sous ordonnance. Malheureusement, il y a beaucoup de pharmacies qui le font sans ordonnance. Ça aussi, il faudrait que les gens le chassent. Aussi, il faudrait aussi que nous, en tant que acteurs de la réduction des risques, en tout cas liés à la consommation d'opiacés, qu'on oriente nos stratégies de prévention avec des messages nouveaux par rapport surtout aux jeunes qui consomment ces produits-là, et malheureusement qu'on ne voit pas dans nos consultations. Rares sont les jeunes qui viennent en consultation. Par exemple, cette personne-là qui a été victime, c'est parce qu'elle a été victime d'une overdose qu'elle s'est retrouvée chez nous. Donc rares sont les personnes qui ont recours à...
L'événement de rupture dont a parlé le professeur Benyamina. Docteur Ndiaye, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience sur le terrain au Sénégal. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
Professeur Benyamina, il nous reste quelques minutes pour aborder la prise en charge et les traitements disponibles pour aider tous ces patients, la prise en charge de la toxicomanie. Comment les traitements ont-ils évolué ces dernières années ?
Jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait pas grand chose. Finalement, il y avait de la psychothérapie, de l'aide, des sevrages qui étaient voués à l'échec, parce que 90% des sevrages se terminaient par une reprise de la drogue, notamment les opiacés, avec des risques d'overdose, parce qu'une diminution de la sensibilité, augmentation ou bien même dose, risque d'overdose. Donc, il y a eu une révolution importante dans le domaine de la toxicomanie. C'est en 1995 l'introduction de ce qu'on appelle les TSO, les traitements de substitution aux opiacés, sont arrivés modifier finalement le parcours et le pronostic de ces personnes. À ce moment-là, en 95-96, on a eu deux molécules, la buprénorphine et la méthadone qui sont arrivées. Elles sont arrivées en France et de manière assez révolutionnaire, assez rapidement à disposition des personnes en difficulté avec ces produits. À l'époque, parce qu'il y avait une crise importante, c'était l'épidémie du sida. Et on avait des morts très importante dans le milieu toxicomane parce que il y avait le problème d'usagers de seringues qui étaient souillées. Et donc une nouvelle politique est arrivée, c'est la politique de réduction des risques et des dommages. C'était l'échange de seringues, le traitement de substitution par voie orale et l'arrêt de la pénalisation finalement des personnes toxicomanes. Ça, c'est la base finalement de la prise en charge de la toxicomanie, la RDR. Et puis petit à petit, on a évolué sur la prise en charge globale, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, les psychothérapies, l'accompagnement psychologique et social. C'est ça la base finalement, la prise en charge.
Une prise en charge pluridisciplinaire.
Pluridisciplinaire et globale, ça c'est important.
Évoqué.
Et puis pour ce qui est des pistes médicamenteuses, elles sont prometteuses peut-être, mais on ne les voit pas arriver, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques addictolytiques pour l'alcool, mais il n'y a pas grand-chose.
Le docteur Ndiaye a évoqué notamment l'analoxone dans le cadre justement du traitement contre les opiacés. Pourquoi n'est-elle pas plus largement utilisée et disponible ? Quel est le problème finalement avec ce traitement ?
L'analoxone, c'est un antagoniste des récepteurs mu-opiacés, c'est-à-dire anagoniste, pardon. Il vient en une fois qu'on a arrêté de consommer. On va mettre ces traitements pour baisser l'envie de reconsommer. Et on l'utilise aussi parfois pour venir en aide aux personnes qui sont en pleine overdose. C'est ce qu'on appelle les antidotes.
On a dit très efficace.
Très efficace dans le cadre des overdoses, oui. Très efficace, ça dépend des profils. Mais c'est vrai qu'on l'utilise pas suffisamment une fois.
Pourquoi est-elle sous-utilisée ?
C'est parce qu'on utilise plutôt la substitution pour limiter les risques de maladies intercurrentes et infectieuses. Et une fois qu'on a sevré les personnes et qu'on les maintient dans le soin, on peut leur donner pour éviter qu'elles aient envie de reconsommer. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important.
J'ai vraiment cette question que je voudrais finir avec cette question, professeur Benyamina. Peut-on en finir avec l'addictologie ou planera-t-elle toujours au-dessus de la personne concernée ?
Alors, on dit et on répète qu'une fois qu'une personne a été dépendante, elle garde en quelque sorte la trace mnésique de la dépendance. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir, mais il faut avoir une prise en charge longue et être accroché à une équipe.
Merci, professeur Benyamina. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. À Assetou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence No. Demain, dans Priorité Santé, vous retrouvez Caroline Paré.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.